On va commencer notre 41e leçon, une série de péchés et du commandement à la grâce. Aujourd'hui, on va regarder le calvinisme et l'œuvre de Christ. Alors, dans nos dernières leçons, on avait examiné une définition de la souveraineté de Dieu. Puis, nous avons appris que l'Éternel a le droit de régner parce qu'il est le créateur de toutes choses et que toutes choses lui appartiennent. Nous avons aussi rappelé la nature de son pouvoir. Donc, c'est un pouvoir absolu qu'il détient tous les pouvoirs, législatifs, exécutifs et judiciaires, et qu'il ne rend de compte à personne et qu'aucune forme d'opposition n'est possible. Quant à l'étendue de son règne, nous avons vu qu'il s'étendait sur les anges, bons et mauvais, sur toute la création, sur les hommes individuellement et collectivement, sur l'attribution du salut et aussi sur ses saints. Nous avons aussi examiné le fait qu'il domine sur toute la création, sur l'univers matériel, sur les étoiles, les planètes, les éléments, sur le monde animal et sur le monde végétal. Alors aujourd'hui, on va regarder les rapports entre le calvinisme et l'œuvre de Christ. Alors avant de commencer l'étude des traditionnels cinq points du calvinisme, il est primordial d'effectuer une brève étude de l'œuvre de Christ. Notre compréhension de l'œuvre de Christ affecte largement notre compréhension de l'ensemble des doctrines bibliques et plus particulièrement de la sotériologie, donc la doctrine du salut. L'étude de la Christologie, qui est l'étude de Christ, comprend souvent les divisions suivantes. L'étude de sa personne, donc normalement on étudie là-dedans sa nature divine, sa nature humaine, l'unité des deux natures et son caractère, sa naissance virginale, etc. On étudie également l'autre division, l'étude de son œuvre, donc son obéissance active, sa vie parfaitement juste, son obéissance passive, donc son œuvre sur la croix, sa résurrection, son ascension, son exaltation et son second retour. Aujourd'hui, on va examiner plus particulièrement son obéissance active et son obéissance passive dans le cadre de ce qui est traditionnellement appelé la doctrine de la justification. Alors, on va étudier trois points aujourd'hui. La justification, qu'est-ce que c'est? La justification, quels sont ses bénéfices? Et troisième point, la justification, qui la recevra? Alors, on va regarder le premier point, la justification, qu'est-ce que c'est? Alors, on va proposer une définition, mais la définition est un peu longue, mais c'est nécessaire parce qu'elle comprend plusieurs éléments. Alors, la définition qu'on propose est élaborée, mais c'est la seule qui rend justice au concept. Alors, la première chose qu'il faut savoir concernant la justification, c'est que c'est un acte de Dieu. Et cet acte de Dieu-là a des caractéristiques. La première caractéristique, c'est un acte instantané et non un processus. Donc, Dieu, quand il justifie, qu'il déclare quelqu'un juste, c'est fait là et c'est fait pour tout le temps. Et non pas un processus que ça se fait dans le temps, un petit peu chaque jour, puis ça progresse, c'est instantané. Deuxième chose, c'est un acte de Dieu qui est perpétuel. Donc, qu'après que Dieu a déclaré quelqu'un juste, c'est irréversible. Donc, c'est bon pour, comme on dit, la vie. Donc, on le voit ça dans Romains, chapitre 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Et ici, c'est très clair, le texte nous dit, c'est Dieu qui justifie. Hébreux, chapitre 10, versets 10 et 14. Le verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alors ici, il y a le concept de la sanctification. Il y a beaucoup, beaucoup de confusion aujourd'hui sur le concept de la sanctification. Parce que les gens confondent la sanctification positionnelle avec la sanctification progressive. Positionnelle, c'est le fait qu'on est en Christ et qu'on est déclaré saint, non pas sur la base de notre propre sainte sanctification, mais sur la base de la sainteté de Jésus-Christ. Et la sanctification progressive, c'est plus le fait qu'après qu'on est sauvé, Dieu s'occupe de faire le ménage dans nos vies, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, et il le fait progressivement. Ça le dit, c'est sanctification progressive. Positionnelle, c'est vraiment Dieu te déclare saint, mais sur la base de l'œuvre de Jésus-Christ, non pas sur la base de tes propres œuvres. C'est important de faire la distinction, parce qu'il y a beaucoup de monde qui confond les choses aujourd'hui là-dessus. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est un verset que j'utilise souvent quand tu t'évangélises, parce que quand quelqu'un dit, ben, je ne peux pas le savoir si je vais être sauvé ce côté-ci, là, je l'emmène à 5 Jean 5, 24. Pourrais-tu me lire ça? Et là, il lit, puis je dis, ça dit-tu aura ou ça dit a? Si ça dit « Ah », ça veut dire que tu l'as déjà. Alors, c'est un verset important pour utiliser, pour démontrer que tu peux avoir la certitude de ton salut même sur cette terre. Alors, on continue dans les caractéristiques du fait que c'est un acte de Dieu. Donc, c'est un acte de Dieu gracieux et libre, donc basé sur une grâce. Romains 3, verset 20. « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Romains chapitre 4, versets 2 à 6. « Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. » Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. On a aussi dans Tite, chapitre 3, verset 5, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Autre caractéristique judiciaire, c'est un terme vraiment juridique, c'est Dieu qui déclare que tu es juste, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas sur la base de notre propre justice. Donc, c'est un juridique parce que Dieu, à cause de l'œuvre de Christ, accorde cette grâce à l'homme élu. Et aussi, autre caractéristique, donc c'est déclaratoire. Autrement dit, c'est Dieu qui te déclare juste, non pas parce que tu es juste en toi-même et par toi-même, mais à cause de ta position face à Dieu. Alors, deuxième caractéristique, la justification, qu'est-ce que c'est? On a vu que c'est un acte de Dieu, mais un acte de Dieu avec différentes caractéristiques qui sont très importantes à garder. La deuxième chose à considérer, qu'est-ce que c'est? C'est basé ou permis par l'œuvre de Christ. Alors, sur deux aspects de l'œuvre de Christ, c'est important de les connaître toutes les deux, pour la raison très simple que son obéissance active aujourd'hui, c'est beaucoup de personnes ont oublié cet aspect-là dans leur salut. Et c'est primordial cependant. Alors, l'obéissance active, c'est le fait que Jésus-Christ a vécu, c'est-à-dire, une vie sans aucun péché, une vie qui était parfaitement juste, une vie qui était une parfaite obéissance à la loi de Dieu. Et l'obéissance passive, c'est le fait que Jésus-Christ a accepté de subir le châtiment des élus à leur place et aussi de mourir. Alors, troisième caractéristique de qu'est-ce que c'est la justification, c'est aussi par lequel le pécheur reçoit la foi et la repentance se voit libéré de la condamnation de la loi. Donc, il y a une rémission de la peine. La peine pour le péché, on le sait, c'est la mort physique, spirituelle et éternelle. Donc, Genèse chapitre 2, verset 17. « Mais tu ne mangeras pas de l'art de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Romains chapitre 5, versets 12 à 14. « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Romains chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc, le pécheur qui reçoit la foi et la repentance se voit libéré de la condamnation de la loi. Autre chose qu'il se voit, il se voit restauré à la faveur de Dieu. Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Galates chapitre 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Et Jacques chapitre 2, verset 23, qui nous déclare amis de Dieu, parce que ça dit ainsi, s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, il fut appelé ami de Dieu. Donc, il reçoit également, il devient héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Romains chapitre 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Galates chapitre 3, verset 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Hébreux 2, verset 11, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Autre chose, c'est imputé. Donc, imputé, ça veut dire mettre à son compte la vie parfaite de juste. Donc, Dieu impute, donc met sur le compte de l'élu la vie parfaite, parfaitement juste de Christ. Alors, le croyant est vu comme ayant personnellement accompli le bien et la vie juste que le Christ lui-même a accompli, sans qu'on l'ait fait, bien entendu. C'est vraiment... faut comprendre que tout est basé, centré sur la personne de Christ. Et 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, « Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Alors, 2 Corinthiens 5, 21, c'est vraiment l'Évangile en capsule. Tu as vraiment les deux aspects de l'obéissance active et passive dans un seul verset. C'est un verset merveilleux pour présenter l'Évangile à quelqu'un. Et quatrième chose qui fait partie de la nature de la justification, c'est qu'il reçoit l'adoption. Galates chapitre 4, versets 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Alors, il faut absolument, quand on veut avoir une idée juste et exacte en théologie, de ce qu'est la justification, il faut nous rappeler absolument ces quatre faits-là. Le premier fait, qui est l'auteur de la justification? Dieu lui-même. On avait vu tout à l'heure dans Romains 8, 33, qui accusera les élus de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Donc, ce n'est pas l'homme qui justifie lui-même. Deuxième chose qu'il faut se rappeler, c'est la cause de la justification. La cause de la justification, c'est l'amour de Dieu. Éphésiens, chapitre 2, verset 4, j'avais marqué 6, mais je ne l'ai pas mis, là. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Donc, pourquoi on a été justifié? C'est parce que Dieu a exercé son amour envers ses élus. Donc, on a vu l'auteur, on a vu la cause. Maintenant, le motif ou la base de la justification, c'est définitivement l'œuvre de Christ. Donc, son obéissance active. Psaume 32, verset 2. « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Romains B4, il dit « Heureux l'homme, il n'impute pas l'iniquité à nous, mais il l'a imputé à Christ. » Alors, Dieu est toujours juste, si ce n'est pas nous qui l'a subi, c'est Christ qui a subi à notre place. Soit le côté actif dans l'obéissance, ou soit le côté passif dans la punition. Romains chapitre 4, versets 6 à 8. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. C'est exactement notre cas. Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas ses péchés. Son péché ou ses péchés. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Romains 1, 17. Parce qu'en lui, bien entendu, le lui, c'est Christ, là, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Autrement dit, dans Romains 1, 17, qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est que le critère de justice de Dieu, c'est Dieu qui l'a établi et c'est la justice telle qu'accomplie par son Fils Jésus-Christ. Et non pas quelque autre forme de justice. On se souvient, les pharisiens pensaient qu'ils étaient justes parce qu'il y avait une obéissance un petit peu extérieure. Et quand le Seigneur est venu, il leur a démontré que leur justice n'était pas à la hauteur. Ici, Romains 1, 17 nous le dit. La justice de Dieu, c'est la justice telle qu'établie par Dieu lui-même et qui est en Jésus-Christ. Matthieu 22, versets 11 à 14. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Luc 15, versets 22 à 24. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. « Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Donc, on a vu le motif de l'obéissance active. On l'avait regardé tout à l'heure, mais là, on le regarde un peu plus en détail. Alors, l'obéissance passive comprend deux éléments. Le paiement d'un prix équivalent et le fait que la sainteté et la justice de Dieu l'exigent. Alors, le paiement d'un prix équivalent. Galates, chapitre 3, verset 13, « Car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Et 1 Timothée, chapitre 2, verset 5 et 6, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. » Donc, le paiement d'un prix équivalent et aussi le fait que la sainteté et la justice de Dieu l'exigeaient, comme on l'a vu tantôt dans 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Alors, pour illustrer tout cela, voici un extrait d'un sermon du prince des prédicateurs, Charles Spurgeon. Alors, il dit, « Dieu n'a pas envoyé Christ en enfer pour l'éternité. Cependant, il a mis sur Christ la punition équivalente. Il fit subir à Christ toute la souffrance, la misère, l'angoisse et les tortures éternelles qu'auraient subi les élus qui se tiendront au ciel et qui ont été rachetés par le sang de Christ. » Alors, on trouve cette citation-là dans Sermons, volume 4, page 217. Voici un autre extrait du traité de théologie systématique du pasteur Thomas Paul Simmons. Alors, il parle justement de fait-là, de l'équivalent de la punition. Alors, il dit, « Cela signifie que le prix payé par Christ correspondait à la dette que nous devions. En d'autres termes, Christ a subi l'exact équivalent de la punition en enfer qu'aurait dû subir ceux pour lesquels il est mort. » Alors, on trouve cette citation-là dans « A Systematic of Bible Doctrine », Thomas Paul Simmons, page 249. Aussi, le docteur W.G.T. Shedd, qui a vécu entre 1820 et 1894, est considéré comme l'un des plus grands théologiens presbytériens. Voici ce qu'il a écrit dans son ouvrage « Discourses and Essays », page 307. « La punition payée par Christ est strictement et littéralement équivalente à celle que le pécheur aurait dû subir, même sinon identique. La notion de substitution exclut l'identité, mais non l'équivalence. » Donc, on a vu l'auteur, la cause, le motif, maintenant le moyen de la justification ou la méthode, c'est la foi au sang de Christ. Romains 5, verset 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Aussi dans Romains, même chapitre, chapitre 5, verset 9, « La plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Maintenant, le deuxième point qu'on va regarder, la justification, quels sont ses bénéfices? Alors, le premier bénéfice, la restauration de la faveur de Dieu, alors que l'être pécheur qui n'a pas reçu la grâce n'est pas réconcilié avec Dieu. Aussi, une autre bénéfice, c'est l'imputation de la justice parfaite de Christ. Troisième bénéfice, l'adoption comme fils de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Donc, le quatrième bénéfice, c'est vraiment la libération de la condamnation de la loi. Romains 6, 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Ça, vraiment, c'est un verset qui a besoin d'être expliqué, parce que c'est un verset qui est très mal utilisé par beaucoup de monde. Un excellent article de M. Fred Malone, que j'ai déjà donné, je pense, qui est excellent, vraiment excellent, où il a travaillé avec un autre pasteur, et le pasteur avec qui il a travaillé avait exigé qu'il comprenne bien ce verset-là, parce que si tu ne comprends pas ce verset-là, tu vas t'égarer. Alors, il a écrit un article dans lequel il fait toute son argumentation théologique pour avoir le véritable sens de Romains 6, 14. Et ce n'est véritablement pas le sens que lui donnent les dispensationalistes en disant qu'on n'est plus sous la loi, que la loi n'a plus de place dans la vie du chrétien après sa nouvelle naissance. On était donc Romains 7, versets 4 à 6 aussi, pour parler de la libération de la condamnation de la loi. « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. » Romains chapitre 10, versets 2 à 4, « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. » 1 Corinthiens chapitre 9, versets 20 et 21. « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Mais avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme étant sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Galates 2:19. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Galates 5, verset 18, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et dernier bénéfice, la paix avec Dieu, Romains chapitre 5, verset 1, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Troisième point, la justification, qui la recevra? Alors, de toute éternité, Dieu a décrété de justifier tous les élus. Galates chapitre 3, verset 8. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, « Toutes les nations seront bénies en toi. » 1 Pierre chapitre 1, verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. 1 Timothée chapitre 2, versets 5 et 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Donc, qui la recevra? Les élus que Dieu a décrétés de toute éternité. Deuxièmement, il faut se souvenir qu'au temps fixé, Christ est mort pour les péchés des élus et il est ressuscité pour leur justification. Romains 4, verset 25, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Troisième point, les élus ne sont pas justifiés personnellement jusqu'à ce que le Saint-Esprit, en temps voulu, leur applique le fait de Christ. Autrement dit, tu n'es pas justifié avant ton salut, même si tu es un élu. Tu es un élu, mais durant la période que tu étais pécheur, tu n'étais pas encore justifié. La justification arrive à un moment dans le temps. Ça, c'est important de réaliser cela. Alors, on n'est pas justifié durant notre période de pécheurs avant la régénération, parce qu'il faut que le Saint-Esprit ait, en son temps, appliqué dans nos vies l'œuvre de Christ. Alors, Colossiens chapitre 1, versets 21-22, « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. » Titre chapitre 3, versets 4 à 7. « Mais lorsque la bonté de Dieu notre Seigneur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » J'ai voulu terminer par, en allant chercher la partie de la confession de foi 1689 qui traite de la justification. Je pense que ce serait nécessaire, quand on adopte une confession de foi, de la lire au moins une fois par année, pour bien comprendre certaines doctrines fondamentales. Et ça, ça en est vraiment une où il y a énormément de confusion de nos jours. Alors, on aurait intérêt à reprendre notre confession de foi, à aller au chapitre 11 et à relire tout ce que nos pères, les pasteurs qui ont rédigé, qui ont formulé cette déclaration-là, pour qu'on voit tous les aspects qu'on vient de regarder sont définitivement là et avec beaucoup d'autres versets. Alors, j'ai tout simplement copié la partie du chapitre 11 qui traite de la justification. On va la relire ensemble. Bien entendu, on ira en bas de chacun des chapitres, Chacun des chapitres, pas des chapitres, mais des paragraphes, vous avez une série de versions, il n'y aura pas à voir ça. Mais dans le fond, dans le texte, quand vous voyez un petit numéro à côté d'un... Quand vous lisez le texte, vous voyez un petit numéro, ça fait référence à des versets qu'on peut aller voir. Alors ça, c'est une bonne chose, quelqu'un qui lit la confession de foi, il voit le numéro, il voit un verset, il va le voir. Parce que c'est encore plus fort quand la parole de Dieu est en arrière de l'affirmation. Alors voici ce que ça dit dans l'article 1 du chapitre 11. « Ceux que Dieu a efficacement appelés, il les a aussi gratuitement justifiés. Non en leur infusant la justice. » Et ça, en passant, les catholicismes, eux, ils enseignent la justification par infusion. Et c'est une erreur monumentale et fondamentale. Il faut comprendre ça, parce que si on ne comprend pas ça, on peut facilement se laisser distraire ou séduire par des fausses doctrines. Alors, en infusant la justice, mais en pardonnant leurs péchés et en considérant et recevant leur personne comme juste, non en raison de quelque chose qui aurait été fait en eux ou qu'ils auraient fait, mais eut égard au Christ seul. Ce n'est pas en leur imputant la foi elle-même, pour leur justification, ni leur acte de croire ou quelque autre obéissance évangélique. Ce qui est imputé, c'est l'obéissance active du Christ à toute la loi et son obéissance passive dans sa mort en vue de leur seule et entière justification par la foi, laquelle... foi, ils ne tiennent pas d'eux-mêmes et c'est le don de Dieu. Ici, il y aurait vraiment besoin d'aller étudier un aspect qu'on a beaucoup tendance à croire aujourd'hui, que l'imputation, ça consiste à l'acte de croire. Alors que c'est pas ça, c'est vraiment l'œuvre de Jésus-Christ. Si tu ne comprends pas ça, c'est comme c'est pas ta foi que Dieu te déclare juste, c'est pas sur la base que tu as eu la foi, c'est sur la base de l'œuvre de Jésus-Christ. Ça aussi, il y a beaucoup de confusion aujourd'hui dans les milieux théologiques sur ce côté-là. Alors, c'est vraiment nécessaire, une fois de temps en temps, de revenir, de lire, de méditer, d'étudier toutes ces choses-là pour que ça soit bien présent dans notre esprit. Tu as le deuxième paragraphe. Alors, on a 6 paragraphes, mais je trouve que pour avoir défini une doctrine comme la justification en 6 paragraphes, avec tous les versets, c'est vraiment un chef-d'œuvre d'écriture, là. Pas pour rien que la confession de foi 1689 a été adoptée par tant de personnes. Deuxième paragraphe, la foi qui reçoit le Christ et sa justice et s'en remet à lui est le seul moyen d'approprier la justification. Elle ne se trouve cependant pas seule dans la personne justifiée, mais s'accompagne de toutes les autres grâces salutaires. Ce n'est pas une foi morte, mais une foi qui œuvre par l'amour. Troisième paragraphe. Par son obéissance et sa mort, le Christ a entièrement payé la dette de tous ceux qui sont justifiés par le sacrifice qu'il a fait de lui-même et par son sang versé sur la croix. Il a encouru à leur place le châtiment qui leur revenait et il a pleinement satisfait la justice de Dieu en leur faveur. Cependant, pour autant qu'il leur a été donné par le Père et que son obéissance et sa satisfaction ont été reçues à la place des leurs, toutes deux gratuitement et sans qu'ils y soient pour rien, leur justification est due à la pure grâce de Dieu, afin que par la justification des pécheurs, la rigoureuse justice de Dieu et son abondante grâce puissent toutes deux être glorifiées. En passant, M. Waldron, qui écrit un commentaire, alors lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend chacun de ces paragraphes-là et il développe vraiment la doctrine de façon beaucoup plus... Pas, je ne dirais pas que c'est plus précise, mais c'est vraiment plus expliqué, plus à la portée. Parce qu'on peut lire ça, là, puis comprendre plus ou moins. Alors, mais si on prend le livre de M. Waldron et qu'on lit ce qu'il a dit sur le paragraphe 3, ça nous aide beaucoup à comprendre. Pas pour rien qu'il ait écrit un genre de livre qui explique la 1689, parce qu'elle a besoin des fois d'être étudiée, d'être expliquée. Alors, quatrième paragraphe. De toute éternité, Dieu a décrété de justifier tous les élus et au temps fixé. Christ est mort pour leurs péchés et il est ressuscité pour leur justification. Néanmoins, ils ne sont pas justifiés personnellement jusqu'à ce que le Saint-Esprit, en temps voulu, leur applique de fait le Christ. Cinquième paragraphe, Dieu continue de pardonner les péchés de ceux qui sont justifiés, bien que ces derniers ne puissent jamais déchoir de l'état de justification, ils peuvent néanmoins, par leurs péchés, encourir le déplaisir paternel de Dieu. Dans cette condition, ils ne retrouvent généralement la lumière de sa face qu'après s'être humiliés, avoir confessé leurs péchés, imploré le pardon de Dieu et renouvelé leur foi et leur repentance. Et le dernier paragraphe, la justification des croyants sous l'Ancienne Alliance était, sous tous ses rapports, la même que celle des croyants sous la Nouvelle Alliance. Alors, on termine avec quelques applications de notre brève étude de la justification. La première application, la doctrine de la justification doit être correctement comprise par tous les chrétiens. Elle nous révèle les côtés merveilleux de l'œuvre de Jésus-Christ dans notre salut. Étudions-la, méditons-la et glorifions Jésus-Christ pour l'avoir accompli. Deuxième application, connaissons toutes les facettes de la justification. Qu'est-ce qu'elle est? Quels sont ses bénéfices? Quels sont ses récipiendaires? Troisième application, révisons souvent notre confession de foi baptiste de Londres de 1689, qui l'exprime avec tant de clarté et de précision. Émerveillons-nous devant la grandeur, la beauté et la sagesse de l'œuvre de la justification de notre Sauveur Jésus-Christ. Dans sa grâce et pour sa gloire.
Amen.
Amen.